sans cette lumière de la résurrection, on va se perdre nous-mêmes. On va se perdre dans les ténèbres. On va se perdre dans les ténèbres. On va commencer par un premier personnage, qui est le personnage de Judas. Le personnage de Judas, il est intéressant. Premièrement, il a été choisi. Il a été choisi par le Seigneur. Et vous vous rappelez, dans le choix des disciples, attends, on va voir, on va pas mal travailler sur Marc. Allez dans Marc 3, et donc là, vous avez l'institution des 12. Vous vous rappelez, hein, puis il gravit la montagne, et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Donc c'était vraiment une volonté de Jésus. Ils vinrent à lui, et il en institua 12 pour être ses compagnons, et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Petite parenthèse, il institue la 12, c'est-à-dire que l'Église, l'origine, c'est le Christ qui est l'origine. Parce que vous entendrez parfois, mais c'est saint Paul qui a créé l'Église, etc. Non, l'institution de l'Église, c'est la volonté de Jésus lui-même, donc on le voit dans Marc douze pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Donc on est dans Marc 3:13. Hein. Il institua donc les 12 et il donna à Simon le nom de Pierre, puis à Jacques le fils d'Alphée et Jean le frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. Puis André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques le fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Donc, le choix des disciples, des apôtres, il est fait mention déjà de... le Seigneur savait que Judas allait le livrer, le trahir. Mais il a été choisi. Et je trouve que ça me laisse penser, au fond, comment dans nos vies... Comment ce qui nous paraît contraire à Dieu, et voilà, quelqu'un qui a vécu toute la vie apostolique avec Jésus, quand même, je veux dire, c'est pas rien. Je veux dire, Judas, c'est pas. Il a vu des miracles, il a écouté les béatitudes, il a fréquenté la Vierge Marie, il a vu la résurrection de Lazare, il a vu tout. Il a vu la pécheresse pardonnée, il a été témoin de tellement de choses impressionnantes, et lui-même, par lui-même aussi, hein, prêché avec pouvoir de chasser les démons, peut-être, il a prêché lui-même. Il a prêché l'évangile, la parole de Jésus. Il a peut-être libéré des personnes d'une emprise démoniaque. C'est intéressant, il y a eu un vrai choix de Judas. Et je trouve que dans nos vies... On pense que Jésus choisit que le bon. Ben, visiblement, quand on voit dans la parole de Dieu, et on pourrait faire d'autres exemples, hein, le livre de Job, par exemple, hein, avec le Satan qui a l'autorisation de partir, etc., et d'éprouver Job, ben voilà, il y a comme une permission divine de choisir en nous ce qui peut être le plus éloigné. À nous de savoir quoi en faire, hein. C'est ça, je pense que c'est... Et je pense, par exemple, qui n'est pas dans la passion, mais qui est dans les lectures du carême. Alors, pas cette année, mais vous savez, il y a 3 années, ABC, etc. La femme adultère. C'est intéressant, la femme adultère. Jésus s'abaisse. Tiens, allez, on va le prendre. Allez, on va se faire plaisir. Là. Jean. Mais il faut faire comme ça, avec la parole de Dieu. Il ne faut jamais commencer par le début et terminer par la fin. C'est très, très mauvais truc. Si vous faites comme ça, ça ne va pas du tout marcher. En Jean 8, et ils s'en allèrent chacun chez soi. Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers. C'est intéressant. Bien sûr, vous faites le lien avec la passion. Bon. Mais dès l'aurore, de nouveau, il fut là, dans le temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Or, les disciples et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu. Ils disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de l'habiter ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux. Et il fut laissé seul avec la femme toujours là, au milieu. Alors se redressant, Jésus lui dit « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ?» Elle dit « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit « Moi non plus, je te ne condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. » Il faut être très attentif au mouvement de Jésus. Il y a, donc on voit donc les pharisiens, les scribes, voilà, les sachants, les hiérarques, j'allais dire, de voilà. Et puis on voit cette femme, et déjà flagrant délit d'adultère, petite interrogation, où est le mec? Parce que flagrant délit, pour moi, c'est au moins deux, quoi. Donc c'est intéressant. Bon bref, est-ce que c'est une sorte de complicité masculine qu'il a pu partir par bon. Ça, c'est une libre interprétation. Et donc, il parle, et puis Jésus s'abaisse et se relève. Et évidemment, tout de suite, vous percutez, s'abaisser, se relever, c'est le mouvement de la passion. C'est comme ça le mouvement. Le mouvement, Dieu descend, hein, l'incarnation, etc., nous relève avec lui, nous ressuscite avec lui. Donc c'est intéressant, c'est qu'il s'abaisse et se relève une fois pour les pharisiens, quelque part pour les accusateurs, pour, entre guillemets, les méchants, voilà, les bad cops, il s'abaisse et se relève une fois pour eux, et pareil, une fois pour la femme adultère. Pour ce qui est présenté comme nickel, les pharisiens, etc., il s'abaisse et se relève, c'est-à-dire que il les entraîne dans ce qu'on appelle la kénose, c'est un mot un peu compliqué, c'est-à-dire la descente, dans sa descente, et il les ressuscite. Relever, ressusciter, c'est le même mot. Et puis ensuite, pour la femme adultère, pareil. Ce qui est loin, pour le coup, ce qui est dans la rupture d'alliance, parce que l'adultère, précisément, c'est une rupture d'alliance, ce qui est dans la rupture d'alliance, il fait le même geste de s'abaisser et de se relever. Donc, juste pour faire le lien avec Judas, parce que, au fond, Jésus rejoint aussi ce qui est éloigné du plan de Dieu. Et c'est la miséricorde. Mais et je trouve ça très, très beau de voir comment, dans l'épisode de cette femme adultère, au fond, on a la vie chrétienne. C'est vraiment la descente. Jésus qui s'est. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, voilà, et il a pris notre nature humaine, tout en excepté le péché, et il a pris le péché du monde, et avec lui nous emmène dans la gloire. C'est notre foi. Vous voyez, ce mouvement, et vous avez le même mouvement par deux fois dans la femme adultère. Un pour les bons, un pour ceux qui sont bien dans les règles, l'autre, voilà, la femme adultère, bon, visiblement, bon, voilà. Voilà, et donc, et c'est intéressant, c'est la seule fois où Jésus écrit sur du sable, par terre. Qu'a-t-il écrit? Alors là, les interprétations vont bon train, etc. C'est là, vous pouvez y aller, là. Certains disent, ça peut être intéressant, on n'en sait rien. Donc vous pouvez faire toutes les interprétations possibles. Donc, vous vous rappelez aussi, ce Socrate n'a jamais écrit. Certains disent, au fond, il a écrit le péché de ceux qui étaient en face. Et donc, on voit que celui qui n'a jamais péché, et les mecs regardaient, tac, tac, ah oui, d'accord, ça, j'ai peut-être. Jette le premier la pierre, hein, c'est-à-dire celui qui premier la pierre, c'est-à-dire qui prenait le sang, la mort de la personne qui était lapidée. C'est ça que le premier, c'est-à-dire qu'il prenait sur lui la mort de cette personne-là. Mais que celui qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Non pas jette la première pierre. pas tout à fait par les autres, le premier la pierre. Donc c'est intéressant de voir au fond comment Jésus confronte en fait ces contradicteurs. Et on voit, je ne sais pas si vous vous rappelez la passion du Christ de Mel Gibson, ce film-là, vous l'avez certainement vu, etc. Et c'est Monica Bellucci, la belle italienne, qui avait demandé le rôle. C'est marrant, elle avait demandé le rôle. Et on la voit au milieu, voilà, complètement. Et qu'est-ce qui sauve la belle italienne? Qu'est-ce qui sauve la chère Monica Bellucci, ou la femme adultère? C'est de se retrouver seul avec le Seigneur. C'est ça qui la sauve. La femme adultère, où sont-ils tes détracteurs? Voilà, c'est ça. Et puis, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Personne dit, alors Jésus, moi non plus, je ne te condamne pas, va, désormais ne pêche plus. Voilà, qu'est-ce qui la sauve? C'est le cœur à cœur, être seul au pied de Jésus. Alors que les autres partaient. Et on voit bien dans le film, je vous invite on voit qu'ils partent, ils sont un peu dans le flou, quoi. Il y a le focus sur la femme. Et derrière, on voit les barbus, là, qui jettent leurs pierres, qui étaient venus avec tous leurs pierres, etc. Et qui partent comme ça, dans le lointain, un peu dans. Et alors que. Voilà. Et on voit bien comment, au fond, c'est passé de la femme adultère à Jésus l'accusé. Donc, je trouve ça intéressant de dire comment Jésus rejoint. Choisit, pour revenir à Judas, choisit ce qui semble le plus éloigné. Alors, pas pour le laisser éloigner, mais je crois que c'est aussi pour nous dire aussi que, comme nous sommes invités à peut-être avoir un autre regard, nous sommes invités à avoir un autre regard justement sur les plans du Seigneur, comment ça se passe dans nos vies, comment. Vous voyez comment est-ce que c'est. Parfois, c'est compliqué dans nos vies. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on passe par ça? Pourquoi est-ce qu'on passe par des choses qui nous semblent tellement opposées à ce que le Seigneur veut pour nous, etc. Et voilà. Et pourtant, Jésus a choisi Judas. Et c'est très réconfortant qu'il l'ait choisi. Donc, reste un énorme mystère. C'est un énorme mystère. Et à la fois, grâce à lui, s'accomplit les Écritures. C'est-à-dire comment ce qui est bienheureuse faute qui nous valut un tel sauveur, vous connaissez ça par cœur, hein, c'est-à-dire que comment ce qui est opposé à Dieu accomplit le plan de Dieu. Même dans nos vies. Alors, où est-ce que c'est, là on va revenir à Marc. À Marc, la Passion. Vous savez que dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, il y a l'institution de l'Eucharistie, et alors que dans le Saint-Jean, c'est le lavement des pieds. Et ce qui est intéressant, moi, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. Ce qui est intéressant, il y a deux personnages qui parlent. Que ce soit dans l'un ou l'autre, et c'est les deux personnages qui vont renier Jésus. C'est intéressant. Dans l'Eucharistie, vous voyez, hein, dans le lavement des pieds, vous rappelez hier, mais non Seigneur, voilà Pierre qui tempête comme ça, mais non Seigneur, etc. Et c'est intéressant, il n'accepte pas de se rejoindre dans ce qui est de plus bas, parce que c'est ça le lavement des pieds, c'est se laisser rejoindre dans ce qui est de plus bas en nous. Vous m'appelez maître et seigneur et vous faites bien. Voilà, donc c'est vraiment cette kénose, encore une fois, cet effacement, cette descente, hein, comme pour la femme adultère. Et donc, du coup, Jésus, là, veut, et puis Pierre lui dit, mais non, voilà, il se raidit. Et puis, à un moment donné, pareil dans. Dans l'institution de l'Eucharistie, serait-ce moi, voilà, qui va annonce la trahison de Judas, voilà, le soir venu, il arrive avec les 12, et tandis qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous va me livrer, un qui mange avec moi. Ils devinrent tout tristes et se mirent à lui dire l'un à l'autre, serait-ce moi, etc. Et c'est l'un des 12 qui plonge avec moi la main dans le même plat. Oui, le Fils de l'homme s'en va, car il est écrit, malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Et puis dans Jean, alors dans Jean c'est un petit peu différent, on peut aller dans Jean 13, on voit peut-être plus clairement l'implication de Judas. Les disciples se regardent, Jean 13, 10, les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, Jean 13, 10, 21. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant de qui parlait Jésus. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus, et Seigneur, qui est-ce ? Jésus lui répond, celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Et Judas, quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui, et Jésus lui dit alors, ce que tu fais, fais-le vite. Voilà, c'est de voir comment Judas aussi, et donc prendre la bouchée, quelque part c'est la communion aussi, on peut. Que ce soit Pierre, que ce soit Judas, il n'accepte pas, il y a quelque chose de la non-acceptation du plan de Dieu dans la descente. Vous voyez, il y a quelque chose de cette manière de nous rejoindre dans l'abaissement. Vous voyez, je pense que, voilà, c'est. Pierre, c'est peut-être plus clair avec Pierre qui dit ben, moi, c'est pas toi qui me laveras les pieds, etc. Mais avec Judas aussi, voilà, le fait de. Les deux interviennent d'une certaine manière et n'acceptent pas le plan de Dieu, et ce sont ces deux-là qui vont trahir. Bon, c'est un petit peu ça m'a un peu percuté. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir comment Judas, au fond, est entré dans cette manière-là de voir le Seigneur. Et Judas prit donc la bouchée, il sortit aussitôt, il faisait nuit. Hein. Et évidemment, il faisait nuit, c'est-à-dire qu'il était lui-même dans la nuit. Il était dans la nuit. Donc, et on voit bien comment Judas trahi le Christ par un baiser, hein, celui à qui je donnerai un baiser. On est en Marc, celui-là, arrêtez-le, emmenez-le sous bonne garde. Voilà. Et aussitôt arrivé, il s'approcha de lui en disant Rabbi, et il lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Alors les pharisiens, dégainant son glaive, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Donc je trouve ça intéressant de dire, au fond, et c'est cela où il y a un baiser, quand vous entendez un baiser, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme, vous pensez tout de suite à plusieurs choses. Vous pensez d'abord au Saint-Esprit. Parce que vous savez que le Saint-Esprit, c'est l'amour du Père et du Fils. Donc il y a là un péché contre l'Esprit. C'est-à-dire qu'on utilise l'amour pour le défigurer, pour le. Voilà, et ça c'est très fort, c'est très violent, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme, c'est-à-dire que tu pèches contre l'Esprit. Tu pèches contre l'Esprit, qui est le baiser d'amour, cet amour du Père et du Fils, c'est notre foi en tout cas. Tu pèches contre l'Esprit. Hein, cet Esprit que Jésus a remis au moment de sa passion. Et oui, parce que la première Pentecôte c'est quand ? Et il remit l'Esprit. Donc la première Pentecôte, c'est la passion, c'est la croix. Donc, d'une certaine manière, pour guérir cette blessure de non-acceptation du plan de Dieu et de péché contre l'esprit par un baiser, tu trahis le Fils de l'homme. Jésus lui-même, au contraire, remet son propre esprit, remet dans l'alliance. Vous voyez, je pense que c'est intéressant, c'est beau de voir ça, c'est de voir que ce qui pouvait s'opposer à Dieu, finalement, accomplit le plan de Dieu. Ce qui pouvait s'opposer à Dieu, accomplit le plan de Dieu. Ce qui était le plus opposé à l'Esprit Saint, c'est-à-dire à l'amour, on voit parfois dans les icônes justement le Père et le Fils, voilà ce simulacre d'amour, eh bien finalement accompli et il remit l'Esprit, accompli le plan de Dieu. Je trouve ça assez intéressant de travailler ça. Alors on se dit, mais pourquoi Judas a fait ça? Parce que quand même, il a, encore une fois, il a expérimenté énormément de choses. Et attention, ce n'est pas parce qu'on fait l'expérience de la grâce qu'on est préservé de ta trahison. Parce qu'il a fait l'expérience de la grâce. Il a fait l'expérience de la grâce. Il a fait les grâces reçues ne sont pas une assurance vie contre le fait de trahir le Christ. La preuve Judas, la preuve Pierre, pareil. Pierre, quelque part, Pierre d'une certaine manière, mais Pierre, lui, il était à la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean, vous vous rappelez, hein, il était à la guérison de la fille de Jaïr, il était à la transfiguration, quoi. Donc, il a vu quelque chose de la divinité du Christ qui est apparu en gloire. Et malgré ça, voilà. Donc, c'est intéressant de dire, d'être très modeste avec les grâces. Vous avez reçu des grâces, nous avons reçu des grâces dans nos vies. Des grâces, des grandes lumières, parfois. Mais ces grandes lumières ne nous préservent pas des grandes ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a quand même un combat spirituel à livrer. C'est ça que ça veut dire. Il y a quelque chose à livrer pour être fidèle à la grâce. Pour être fidèle à la lumière. Justement, il sortit, il faisait nuit. Il a eu beaucoup de choses lumineuses dans sa vie, Judas. C'est impressionnant le nombre de grâces qu'il a eues. Et on imagine Jésus qui commençait à être connu. Ah, mais toi, tu es avec le maître, etc. Parle-nous. Du coup, il est quelque part valorisé. Il devait être comme chacun des disciples, etc. Il était valorisé, etc. Et puis, bon, malgré ça, malgré les grâces reçues, il faisait nuit. Voilà. Il a choisi une obscurité. Alors, pourquoi? Alors, bien, moi, j'ai une. Il peut y avoir 25 interprétations. Hein. Je partirai du judaïsme. Moi, je travaille beaucoup sur le judaïsme depuis déjà un certain nombre d'années. Et vous savez peut-être que dans la tradition juive, il y a l'interprétation à travers les. Il n'y a que des consonnes en hébreu, vous savez ça, il n'y a que des consonnes. Hein, il n'y a pas de voyelles. Et donc, du coup, en fonction des voyelles, on est un mot qui se dessine plutôt qu'un autre. Mais il y a aussi une autre manière d'interpréter dans le judaïsme, c'est ce qu'on appelle la gématria. Peut-être je pense que vous êtes peu à connaître ça, la gématria. La grématria qui consiste au fond que chaque lettre a une valeur numérique. Il y a 22 lettres de l'alphabet hébreu et chaque lettre a une valeur numérique. Et donc chaque mot représente un nombre, par définition. Si chaque lettre a une valeur numérique, chaque mot, tu sommes, etc. Bon, vous regarderez ça, mais chaque mot représente un nombre. Et vous savez quoi ? Le mot, le serpent des origines et le Messie ont la même valeur numérique. Et donc, il n'en fallait pas plus à nos chers rabbins qui adorent couper les cheveux en quatre dans le sens de la longueur, de dire qu'est-ce qu'il y a de commun entre le serpent des origines et le Messie, parce qu'alors ça paraît complètement, mais contre-intuitif. Le serpent, le tentateur, on parle bien de celui-là, on ne parle pas d'un autre. Hein. Et le Messie. Et qu'est-ce qu'il y a de commun? Et au fond, moi, j'ai mon interprétation, mon midrash, comme on dit en hébreu, voilà, je me dis, tiens, quelle est l'action du serpent, du tentateur, sur Adam, une fois le péché originel accompli? Eh bien, ils étaient nus. Et je me dis, qu'est-ce qui est aussi une des vocations du Messie, si ce n'est révéler, mettre à nu les intentions des uns et des autres? Et pour cela, évidemment, vous pensez immédiatement à quoi? Vous pensez à la présentation de Jésus au Temple. Présentation de Jésus au Temple. Donc c'est dans Luc. Luc 2, c'est ça, Luc 2. Luc 2, 22 et suivant. Hein, donc on connaît, Marie et Joseph viennent présenter l'enfant Jésus, etc. Et tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, etc. Bon, tout ça, ça fait partie des sacrifices de l'Ancienne Alliance. Et puis, il y avait un homme, Siméon, il attendait la consolation d'Israël, etc. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, et il le reçut dans les bras et bénit Dieu. Et la prophétie de Siméon dit que son père et sa mère étaient dans l'étonnement à propos de cette prophétie. Siméon les bénit et il dit « Vois cet enfant ». Doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes des biens des cœurs. Et je me dis, le serpent met à nu, le Christ met à nu. Révèle. C'est bon, tout le monde y est? Tout le monde, c'est-à-dire, il révèle. Et quand on fait la découverte de Jésus, il y a une révélation. On enlève le voile, d'une certaine manière, oui. Et alors, pour revenir à Judas, une interprétation possible, c'est qu'au fond, Judas voudrait pousser Jésus dans ses retranchements. Parce que lui, vous savez bien, dans l'histoire d'Israël, on attend un messie politique. Le libérateur, etc., des Romains, voilà, on attend, puis ça ne vient pas. Et pareil, on voit bien qu'il y a un doute, par exemple, c'est Jean-Baptiste, vous rappelez Jean-Baptiste dans sa prison, etc., et qui dit, envoie des messagers, mais es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Je veux dire, il y a des doutes. À un moment donné, il y a eu un doute. Mais est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon? Et on voit bien que Jean-Baptiste, ben, ça lui coûte de rentrer dans la logique du royaume. La preuve que le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. C'est intéressant. Et donc, du coup, de dire, tiens, au fond, Judas, est-ce que... Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'intérêt. Bon, il y a les questions d'argent, mais ce n'était même pas le sujet. Il n'était pas rentré dans la logique de l'Évangile. Il n'était pas rentré dans le cœur à cœur avec le Maître. Il faisait semblant. Il n'était pas convaincu. Je trouve que c'est intéressant de dire, au fond, tiens, Judas n'était pas convaincu. Quelque part, pour pousser Jésus, montre-nous que tu es celui qui doit venir. Montre-le-nous. Allez, sors, allez. Ils viennent avec des bâtons, allez, il va se passer quelque chose. Et donc, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, vous connaissez ça, je dirais à mes soldats, viens, ils viendraient, etc. Bon, etc. Tout ça, c'est dans Saint Jean. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas rentré dans cette logique du royaume. Il y a quelque chose il a dit, je vais parier sur le mauvais cheval. Et peut-être pour nous, c'est pareil. Parfois, on se dit, est-ce qu'on a vraiment raison de suivre Jésus? Parce que ça, quand même, complique la vie, quoi. Parce que ceux qui ne suivent pas Jésus, c'est pas non plus des brigands de grand chemin, c'est pas des gens qui font le mal, il y a des gens qui... Voilà, non, mais ils se font beaucoup moins de nos cerveaux que nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc du coup, ceux qui suivent Jésus, ben, et au fond, est-ce qu'on ne ferait pas bien de ne pas suivre? Je me rappelle comme ça, on est sur un camp qui s'était avec des jeunes, et une fille me dit, tiens, mais parfois je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment raison d'être disciple, d'être chrétienne? Est-ce que j'ai vraiment raison? Et parfois on a le doute qui nous assaille, comme Judas, il a eu un doute et il a mis Dieu à l'épreuve. Tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve, vous pensez exactement à les tentations, hein, tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve, hein, la troisième tentation. Il a mis à l'épreuve. Et c'est lui qui a été éprouvé. Donc, et cette fille me dit, mais au fond, est-ce que j'ai vraiment... Parfois, j'ai envie d'envoyer balader tout par-dessus bord. Et je ne serais pas forcément une mauvaise personne, parce qu'il y a des tas de gens qui font le bien et qui ne sont pas disciples de Jésus, mais... Ils s'autorisent les choses, il y a moins de prise de tête, si vous voulez. Et donc, il y a un combat spirituel pour... et à la fois, elle me disait, c'est intéressant, parce que cette fille, elle est de tradition catho, un peu comme vous, etc. Et puis bon, elle me disait, il y a quelque chose au fond de moi qui m'empêche de le faire. Y a-t-il un autre chemin? C'est une question, hein. Y a-t-il un autre chemin? Acquérions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Judas a cru qu'il y avait un autre chemin. Il a poussé, il a mis Dieu à l'épreuve. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est pour ça que le début du carême, vous le rappelez, c'est le dimanche de la tentation. Mais voilà, et nous aussi, je veux dire, on se dit, tiens, mais au fond, est-ce qu'on... Parfois, on est pris par les doutes, on est pris par... on voudrait les choses plus claires, on voudrait plus visibles. Voilà, c'est quand même un petit groupe, c'est quand même un petit groupe, je trouve. Voilà, les disciples sont quand même assez peu connus. Jésus est peu connu. La preuve, c'est qu'il faut le désigner, c'est qu'il n'est pas très connu. Hein? Voilà, et je trouve que c'est intéressant de voir comment nous-mêmes, nous sommes invités à être attentif à ça, parfois on voudrait plus de clarté, plus de preuves, plus de signes. Ne mets pas le Seigneur à l'épreuve. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. N'oublions pas une chose, c'est intéressant de voir qu'on médite sur la foi, par exemple. La foi, c'est ce qu'on appelle un régime d'indigence. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire c'est faute de mieux. C'est pour les pauvres, la foi. La foi, c'est pour les pauvres. C'est faute de quoi? Faute du face-à-face. Faute de la clairvision. Eh bien, on a la foi. Et dans cette foi-là, c'est intéressant de voir que dans la foi, il y a en même temps une dimension lumineuse, parce que notre intelligence, la foi, vous le savez très bien, est dans l'intelligence, élève notre intelligence à des réalités qui ne sont pas accessibles aux cinq sens. C'est ça la foi. Hein? Donc elle élève notre intelligence, et puis il y a quelque chose de lumineux, mais en même temps, comme une sorte de clair-obscur, on n'a pas toute la lumière. pour ça que ça permet la foi. Il y a une dimension d'obscurité et une dimension de lumière dans la foi. C'est un entre-deux, entre chien et loup, comme on dit. Hein. Vous savez, le soir, c'est entre chien et loup. On ne sait pas bien distinguer, on n'arrive pas. Il y a quelque chose, c'est pour ça que c'est la foi. Et parfois, on voudrait quelque chose de plus clair. On voudrait une église plus reconnue ou que les chrétiens soient plus mis en avant. Ou on voudrait. Et puis, non. Et puis, à chaque fois que on voit bien des stars là qui tombent les unes à la suite des autres, etc. Bon, voilà. Parmi les prêtres, parmi les... Ils sont désingués systématiquement, quoi. C'est marrant, hein. C'est marrant, je sais pas, c'est marrant, mais bon, mais en tout cas, de dire, tiens, c'est pas le chemin que Jésus veut. Et on peut parfois tenter ou être tenté de vouloir une visibilité, une clarté, une puissance, la puissance du monde, au fond. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et ce qui n'est pas facile pour le chrétien, parce qu'il habite, il est dans le monde et non pas du monde, vous connaissez bien l'expression, etc. Et à la fois, on a ces réalités terrestres qui sont très importantes, qu'on puisse les habiter, qu'on puisse les féconder par la lumière de l'évangile, etc. Et à la fois, il y a quelque chose où on se sent étranger. Et je pense que Judas voulait avoir plus de conviction, plus d'évidence. La foi, c'est une certitude, mais ce n'est pas une évidence. Et donc, il faut faire le choix de ce chemin d'entre-deux, ce chemin pas... Voilà, c'est... dans le lavement des pieds, il y a Pierre et Judas qui sont les deux et qui, voilà, n'acceptent pas quelque part le fait de cet entre-deux, n'acceptent pas de se laisser toucher, d'avoir une autre manière d'entrer en relation, d'être autrement ensemble. Hein, dans le lavement des pieds, c'est un autrement ensemble. Eh bien, les deux qui râlent, entre guillemets, ben, la Pierre, puis l'autre prend la bouchée et sort. C'est quand même puissant, je veux dire, tu sors en plein repas de Pâques, etc., tu sors, c'est quand même violent, quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ce que tu dois faire, fais-le. Et c'est ce que dit Jésus, il pensait que c'était comme il tenait la bourse commune, etc. C'est une grande misère pour les économes de congrégation que je suis, c'est que leur saint patron, c'est Judas, quoi. Chacun interprétera ça comme il le souhaite. Bon, il paraît qu'il me... Parce que, bon, bref. Non, mais ce, voilà, il avait la bourse commune. Alors, est-ce que ça a à voir avec ça? Bon, peut-être pas forcément, mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il a quitté la communion. Il venait le communier, et il a quitté la communion. Il faisait nuit. Il a vrai... À un moment donné, il y a eu... C'est intéressant de voir, à un moment donné, il y a eu un choix. À un moment donné, il y a... Il y a eu un choix. Vous savez que quand on confesse un péché, on confesse toujours un acte libre. On ne confesse pas, pourquoi je me suis mis en pétard comme ça, mais voilà, c'est un peu en mode soupolé, etc. Bon, alors, ensuite, on peut confesser de ne pas avoir demandé pardon, de ne pas peut-être... Mais en revanche, c'est des actes libres. Et là, à un moment donné, là il y avait une liberté chez Judas. Et ensuite, quand... Plus ça va aller, plus il s'enferrait. Vraiment, c'est le choix des ténèbres. Hein. Je trouve que c'est le choix des ténèbres. Il y a une sorte d'enfermement, une sorte de vous voyez, de... On est dans les ténèbres. D'endurcissement du cœur. comme pour Pharaon. Dans, le cœur est devenu dur. Pour moi, il avait une grosse bronca contre Jésus. Mais quand il a vu jusqu'à où ça allait, alors là, il ne pensait pas que ça allait aussi... Je pense, j'interprète, que ça allait si loin. Parfois, on est dans un mode comme ça de dureté de cœur, mais il ne pensait pas que ça allait... Le Sanhédrin, et puis tout ce qui s'ensuit après, tout... Il ne pensait pas, certainement, il n'y pensait pas, mais il va bien venir avec ses armées, etc. Bon. Et puis, il finit par se pendre. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu un retour comme Pierre, vous savez, avec la miséricorde, etc. Bon, et ce qui est intéressant, c'est que Judas est mort de la même manière que Jésus. Par manque d'oxygène. Parce que quand vous êtes crucifié, vous êtes comme ça, vous n'arrivez pas à respirer. Donc vous appuyez sur vos jambes, c'est pour ça qu'on veut casser les jambes des condamnés. Vous appuyez sur vos et donc on meurt asphyxié. Et Judas, comme Jésus, sont morts asphyxiés. Je ne sais pas ce que vous en ferez, mais bon. Il a remis l'esprit, il a remis le souffle. Alors que dans Judas, il y a vraiment cet effondrement. Le plan de Dieu. Quel mystère! Voilà, écoutez mes amis, je vous laisse avec ça, de méditer, retravailler la parole de Dieu, juste peut-être une chose ou l'autre, partez avec ça, vraiment garder le silence absolu, vraiment absolu. Parce qu'on est, on est face tellement à un grand mystère que seul le silence est de la clé d'accès. Vous voyez ? Vos portables coupés, etc. Tout ça, vous coupez tout. Et vous plongez dans le mystère. C'est intéressant, mystère. Ça vient du grec, muo. Muo qui veut dire fermé. C'est ce que, par exemple, le mot myope, c'est quelqu'un qui est comme ça, les yeux comme ça. Dans le mystère, il y a quelque chose qui ne nous est pas accessible. Il faut dessiller nos yeux. Et comment on dessille nos yeux? C'est la foi. Qui nous donne accès. Et pas à la plénitude du mystère, mais à quelque chose, goûter quelque chose du mystère. Et notre vie, soit elle est absurde, soit elle est mystère. Il y a un choix à faire. Et vous avez des arguments dans les deux sens. Nous qui sommes ici, à tâtons certainement, mais nous voulons faire le choix du mystère. Il y a quelque chose qui est plus grand. Le chrétien, c'est celui qui porte en lui-même plus que lui-même. Amen.